Un air d'actu avec Serge Carrel.
Il est très impliqué dans le mouvement Solidarité Paysan Romandie. Il y a peu, il était dans le sud de la France pour y organiser des vacances pour agriculteurs. L'entrepreneur social Jean-Michel Rey vient de publier plusieurs contributions de son mouvement dans un livre qui s'intitule « Urgence, un appel à la repentance ». Un air d'actu reçoit celui qui, ces dernières années, est devenu un peu le porte-parole d'un certain monde paysan de Suisse romande. Madame, monsieur, bienvenue. Jean-Michel Rey, bonjour.
Mais bonjour Serge.
Alors vous êtes instituteur de formation. Pendant longtemps sur la côte vaudoise, vous vous êtes impliqué auprès des adolescents et des jeunes en mal d'insertion professionnelle. Aujourd'hui, vous êtes le coordinateur roman de Solidarité Paysan Romandie. Alors pourquoi ce changement ?
Oh ben parce qu'après 30 ans dans la vie sociale, enfin 40, il me semblait que j'avais un petit peu fait le tour. Et puis j'avais aussi un appel qui était sur mon cœur de donner à boire à celui qui a soif, de donner à manger à celui qui a faim. Et puis un jour, je me suis rendu compte que je n'étais pas en train d'obéir à mon appel parce que je donnais à boire et à manger à des gens qui n'avaient pas soif et pas faim.
Et vous avez découvert que dans le monde paysan, aujourd'hui, il y a des gens qui ont soif et faim.
Alors, ce qui est surtout sûr, c'est de s'impliquer pour le monde paysan, c'est de s'impliquer dans un domaine qui va en cascade, parce que comme le paysan, il a reçu un appel pour nourrir la population, si on prend soin d'un paysan qui ne va pas, eh bien, on maintient une exploitation, on maintient un lieu d'approvisionnement pour la population, ce qui veut dire qu'un investissement pour quelqu'un, eh bien, c'est porteur pour un grand nombre de personnes.
Mais vous avez découvert un monde qui se trouvait dans une situation délicate, précaire, et vraiment, comme vous le dites, qui avait faim et soif d'accompagnement ?
Alors, je ne dis pas forcément que les gens ils ont faim et soif d'accompagnement, parce que le paysan, c'est un personnage assez secret qui va garder sa problématique pour lui, mais qui vit une détresse assez intense. Et à un moment donné, peut-être que c'est un monde qui a besoin de porte-parole, il y en a plusieurs. Et c'est important de relayer la détresse, les difficultés que ces gens vivent actuellement. Je pense qu'il y a une vraie détresse de ce que j'appelle le peuple paysan. Il y a d'autres qui utilisent des mots plus forts, avec lesquels je ne suis pas loin d'être d'accord, c'est qu'il y a un génocide du monde paysan dans le monde entier.
Ah oui, c'est un terme très très fort.
C'est là. Un monde assez fort, mais peut-être qu'il faut de temps en temps une formule un petit peu choc. Parce que quand vous voyez qu'il y a des décisions politiques qui veulent fermer 1000 fermes dans les années qui viennent, 1000 fermes, ça fait 1000 familles qui n'auront plus d'exploitation, puis c'est décidé d'avance volontairement. Donc quand on décide d'avance de mettre les gens à genoux, eh ben, ça peut s'appeler de la maltraitance.
Est-ce que vous-même, vous avez des liens avec ce monde paysan ? Est-ce que vous êtes fils d'agriculteur ? Est-ce que vous aviez un peu de connivence avec des gens qui travaillent dans ce monde-là ?
Alors j'ai été sensibilisé par le contact avec pas mal d'amis paysans. J'ai été adopté par le monde paysan ces dernières années où je me suis fait des réelles amitiés. Mais ces 6 derniers mois, je me suis rendu compte que sur 4 éléments d'origine, j'ai 3 branches familiales qui descendent du monde paysan et j'avais pas remarqué. C'est tout de la même région. Donc, ouais, je suis un descendant de paysan, mais sur la 4e génération.
Alors, votre association Solidarité Paysan Romandie vient de participer à la publication d'un livre que j'ai là entre les mains, Urgence, un appel à la repentance. Pourquoi cette implication dans la publication d'un tel ouvrage ?
Alors, ça a commencé par le fait qu'on organisait des vacances pour les paysans. Après des camps...
Attendez, expliquez-moi là, vous organisez... Vous êtes donc entrepreneur social, puis en même temps, vous êtes gentil animateur de vacances pour...
Je suis polyvalent, moi.
Vous êtes polyvalent.
Non, donc, mais l'idée, c'est... Je me suis rendu compte dans des accompagnements qu'il y avait des paysans qui n'avaient jamais eu de vacances. Certains qui n'étaient jamais sortis du canton de Vaud, par exemple, sur toute une vie. Donc, ça m'a préoccupé. Et puis, on s'est rendu compte qu'en passant du temps avec eux, on pouvait vivre des choses assez fortes. Et puis... La pandémie nous a empêchés de continuer d'organiser ça. Alors, on a organisé des lives qu'on a appelés « Paysans debout ». Et puis, dans ces lives, on a mené toute une réflexion vraiment pour encourager, soutenir des paysans par vidéo, disons.
Par Zoom,
voilà.
Ou par Skype.
Et puis, c'est là qu'on a... C'est dans cette mouvance qu'on a lancé ce ce livre.
D'accord.
Parce que pendant la pandémie, vous aviez pas mal de prophètes, romans français qui nous ont appelés à changer d'attitude. Et en discutant avec ces gens, on s'est rendu compte qu'ils avaient l'air de prêcher dans le désert. Avec quelques amis, ça nous a émus. On s'est dit, mais il faut qu'on relaye leurs propos, il faut qu'on complète ce qu'ils disent. Et c'est comme ça que ce livre est né à la base. C'était un petit peu pour leur rendre honneur et puis pour leur offrir une sorte de haut-parleur, de dire, mais écoutez ces gens qui nous alertent.
Et puis dans ce cadre-là, plusieurs membres de votre association Solidarité Paysans Romandie ont publié des textes, dont vous. Et il y a notamment Gabriel Bussard, qui est proche de vous et qui doit habiter le canton de Fribourg, qui, quelque part, publie un réquisitoire contre la grande distribution. On sent vraiment un vent de révolte souffler dans le monde paysan chrétien. Les gens en ont marre d'être exploités par la grande distribution.
Alors, il n'y a pas que le monde paysan chrétien qu'on a marre d'être exploité par la grande distribution. Je crois que le monde paysan en général en a marre. Mais en même temps, c'est un domaine qui est assez délicat. Parce que quand vous tirez une partie de votre subsistance de quelqu'un qui distribue vos produits, c'est difficile de vous rebeller contre lui. Donc il faudrait arriver à générer un vrai dialogue avec les grands distributeurs pour que tout le monde ait sa part d'une façon juste, rationnelle et respectueuse. Et puis ce n'est pas le grand distributeur qui fournit le plus gros travail, ce n'est pas lui qui prend les risques. Et puis c'est toujours le petit qui paye. Et quand on voit certains agriculteurs qui sont payés entre 5 et 10 francs de l'heure, je veux dire, qui aujourd'hui dans notre société accepte de travailler dans ces conditions? Il y a des paysans qui travaillent à perte. Eh bien, on dit, comment ça se fait? C'est pas possible, ils seraient déjà morts s'ils travaillaient à perte. Ben oui, ben ils sont en train de mourir. Donc, c'est une réalité qui est assez silencieuse. Les gens meurent en silence en général, à part de temps en temps il y a un suicide, enfin il y en a quand même pas mal, mais cette mort lente est silencieuse et préoccupante. Et si personne n'en parle, eh ben, voilà, ça va continuer.
Et Gabrielle Bussard a des propos très énergiques et très véhéments. Elle parle des gains de la grande distribution et des PDG qui pilotent ces grands groupes, en s'interrogeant et en se demandant s'il n'y a pas là une sorte de produit de la rapine, donc du vol et de la violence. Ce sont des propos auxquels vous souscrivez vraiment ?
C'est-à-dire que c'est très intéressant quand on lit la parole de Dieu, la Bible, et un certain nombre de textes de l'Ancien Testament. Là, c'est un texte de l'Ancien Testament,
voilà,
typiquement.
Voilà, qui vient du prophète Amos.
Mais
hein,
où on voit qu'il y a 2500 ans, on avait déjà des phénomènes comme ça, où il y avait des petits qui étaient exploités.
Donc finalement, un texte de l'Ancien Testament très ancien. Il a une actualité féroce.
Absolument.
Et qui, quelque part, permet à des gens de l'utiliser comme un levier pour dénoncer une injustice dont ils seraient victimes.
Ben, moi, je pense qu'avant que des gens se lèvent pour dénoncer, on voit que Dieu se lève pour dénoncer dans un certain nombre de textes où il dit « Ceux qui sont censés administrer la justice ne l'assurent plus. » Et quand Dieu dit « Le jeûne auquel je prends plaisir, c'est de briser les liens de la méchanceté, de briser le joug de l'oppresseur et de rendre libres les opprimés », c'est un vieux texte d'Ésaïe. Ça a 2500 ans, 2600 ans, mais ça a une actualité aujourd'hui qui est fantastique. Et c'est toujours le même Dieu qui attend toujours de trouver des gens dans la société qui sont d'accord de relayer ce qui est sur son cœur. Et sur le cœur de Dieu, il y a vraiment une aspiration, c'est pas une aspiration, un appel à la justice. Et moi, je fais de plus en plus des démarches pour me présenter devant le trône de justice de Dieu pour demander justice sur toutes sortes d'affaires qui sont injustes. Parce que c'est, à mon avis, le seul qui est compétent pour vraiment nous tirer d'affaires comme ça.
Et vous avez l'impression que dans ce monde paysan, en tout cas pour certains, des personnes qui sont engagées dans la foi, ces textes, tout à coup, se mettent à parler de manière nouvelle et rencontrent le vécu concret des gens et finalement se mettent peut-être à développer une sorte de, risquons le terme, un peu de théologie de libération de la condition paysanne actuellement en Suisse romande?
Alors, théologie de la libération, je veux peut-être, c'est peut-être une bonne idée de dire comme ça, mais il faut... Moi, je pense que dans le cri de Moïse devant Pharaon, quand il dit « Laisse mon peuple aller », moi, je serais tout à fait prêt à me lever pour dire la même chose. Je ne me compare absolument pas à Moïse quand je dis ça, mais ce cri-là de dire « laisse mon peuple aller » ou un autre moment dans la Bible, il y a un texte où Dieu reproche de dire « je ne trouve personne qui dit « libère et restitue ». Quand j'ai découvert ce texte la première fois, je me suis planté en pleine ville, puis j'ai hurlé « libère et restitue ». J'ai dit « voilà, au moins quelqu'un l'aura dit ».
Alors, ce qui est aussi frappant dans cette prise de position de Gabrielle Bussard, c'est qu'elle lance une polémique contre l'utilisation de toutes sortes de produits de l'industrie alimentaire, comme l'huile de palme, le soja, la farine de riz, en lieu et place de produits qui seraient justement issus de ce monde paysan local suisse.
Oui, alors, Gabrielle Bussard, elle a fait vraiment, c'est une pointue au niveau de la recherche. C'est un peu notre documentaliste. Elle a vraiment fait des recherches sur l'alimentation. Elle a fait des découvertes qui sont presque terrifiantes. Et puis, en se promenant, elle a fait toute une recherche là-dessus dans les grands magasins. Et elle a découvert que tout ce qu'on nous présente mettant comme plus naturel, plus bon pour la santé, tout ce qui est plus pour chacun, c'est moins de nature,
c'est moins de produits locaux,
de produits de la terre. C'est beaucoup du produit transformé et puis c'est beaucoup sous prétexte d'une sorte d'écologie locale. C'est des ravages ou des prédations dans des pays ailleurs où on ne voit pas qui sont colossaux.
Et ça,
on n'avait jamais fait attention à ce genre de choses.
Et ça, aujourd'hui, le monde paysan y est attentif et finalement découvre peut-être la manière dont les consommateurs aujourd'hui seraient grugés.
Oui, il y a probablement vraiment un mensonge. Et puis oui, les agriculteurs se rendent compte parce que, par exemple, on reprend de la pandémie. Quand il y a eu les débuts de la pandémie, les gens se sont rués sur les commerces de proximité. Moi, j'ai des amis qui ont des commerces de proximité, il fallait attendre une heure pour être servi. Il y avait des queues, ils n'ont jamais vécu ça.
Il y avait un engouement, en tout cas, très très fort.
Et puis on s'est dit, il y a une révélation. La pandémie a servi à faire une révélation qu'il faut se retourner vers le paysan. Mais dès que les mesures sanitaires se sont arrêtées, les gens ils sont retournés à leurs habitudes. Donc, ils n'ont pas compris les enjeux. Et je pense qu'il faudra encore une ou deux secousses pour qu'ils se rendent compte que le commerce de proximité, c'est fondamentalement important.
Alors, dans ce livre « Urgence, un appel à la repentance », il y a aussi un autre texte publié par Claude Jacou, le fondateur de l'association Solidarité Paysan Romandie. Ce texte s'intitule « Existe-t-il une issue de secours pour notre humanité en souffrance et pour le monde agricole en particulier ?» Et là, cet agriculteur, Claude Jacou, qui vit sauf erreur du côté de la vallée de Joux, affirme que nous avons fait de la terre habitable un dépotoir et des eaux un cloaque. C'est très surprenant d'entendre cela de la bouche ou de la plume d'un agriculteur d'ici.
Oh, je ne vois pas pourquoi c'est surprenant. Je veux dire, je donne une autre image. Je suis allé il y a quelques années de Genève à Romanshorn par l'autoroute. Pour toutes sortes de raisons. Toutes les terres les plus riches, les plus belles de Suisse, tous les terrains plats, le long de cet axe routier, c'est tout des zones industrielles. Et dans ces zones industrielles, vous avez des grands magasins d'alimentation, par exemple, qui sont bâtis pour nous donner à manger sur les meilleures terres de notre pays. Et ça, c'est étonnant. Si maintenant, on va vers un moment d'effondrement, par exemple, dans la société, toutes ces terres, c'est des terres qui sont perdues. On ne pourra plus produire à manger sur ces terrains qui seront bâtis, qui ne seront plus utilisés. Et effectivement, je pense qu'on a procédé à une destruction effrénée de notre source d'approvisionnement de nourriture, et puis sur une pollution éhontée de notre eau, et j'y ai contribué comme toi, on y a tous contribué, peut-être sans se rendre vraiment compte. Et puis maintenant, on a atteint un stade où ça devient vraiment grave. Et puis, alors cette fois, tout d'un coup, tout le monde s'en rend compte.
Et puis là, dans le monde paysan, finalement, il y a toute une série de personnes qui prennent conscience de tout cela et qui sont prêts à changer leur manière de conduire leur exploitation, leur manière de mettre en œuvre leur culture.
Alors, ça, c'est un sujet qui est très délicat, parce que même dans les milieux chrétiens intimes où on est amis, disons très proches, on peut avoir des points de vue différents, par exemple, par rapport au bio et puis à la culture traditionnelle. Il y a vraiment quelque chose qui est très, très fort sur le cœur des gens, c'est dire on doit nourrir la population. Puis à un moment donné, les moyens utilisés peut-être ils viennent un petit peu secondaires par rapport à l'urgence de donner à manger. Mais ce qu'on va se rendre compte maintenant, c'est qu'avec les changements climatiques, il y a tout un tas de choses qu'on ne peut plus faire comme avant. Il y a même des espèces céréalières ou de la production, certains raisins qu'on ne peut plus produire parce que le climat a un petit peu changé, il faut trouver des nouvelles variétés. Et là où le défi devient intéressant, et là je suis spectateur en premier lieu de ça, c'est que vous avez des familles paysannes qui se mettent devant Dieu puis qui disent « on doit faire quoi ? On doit faire comment ? Donne-nous des indications ». Et je pourrais vous citer des exemples de paysans qui ont reçu des consignes de semer 2-3 semaines, 1 mois plus tôt, ou 2-3 semaines, 1 mois plus tard, avec tous les voisins qui disaient « mais ils sont complètement cinglés ». Et puis, on voit que finalement, au niveau du résultat, ça a apporté du fruit. Donc, dans cette alliance avec le Créateur, si le producteur, le paysan, il se met à l'écoute du Créateur pour recevoir des consignes, et ça demande de la disponibilité dans l'écoute, eh bien, par rapport aux défis qui viennent, le Créateur donne encore des indications. Et ça, c'est juste passionnant.
Ce qui est intéressant, hein, dans le cadre de ce livre que voilà, vous éditez hein, conjointement avec d'autres personnes, « Urgence, un appel à la repentance », c'est que vous invitez quelque part la population suisse, mais le monde paysan aussi, à poser un acte de repentir, un acte de demande de pardon. Alors, pourquoi cela ?
Alors déjà, je dirais, on n'appelle pas la population suisse à se repentir, parce qu'on ne peut pas se repentir si on n'a pas conscience d'être à côté, mais on appelle le peuple de Dieu, ceux qui ont une connaissance de Dieu.
D'accord, donc a priori les chrétiens.
Les chrétiens, a priori les chrétiens.
Les chrétiens engagés.
À se repentir clairement. Parce que dans un des textes fondateurs de toute la dimension de la repentance, il y a ce texte des Chroniques qui parle de « si mon peuple s'humilie, prie en cherchant ma face », se détourne de ses mauvaises voies, puis pour sûr, là maintenant, tout le monde, tout parti confondu, tout le monde s'accorde à dire on a pris des mauvaises voies, qu'il faut s'en détourner. Je l'exaucerai des cieux et je guérirai son pays. Donc si vous avez des délégués, des ambassadeurs du corps de Christ dans le pays qui se repentent sincèrement devant Dieu en recevant des indications de comment le faire, il peut y avoir une guérison sur le pays. C'est des enjeux qui sont majeurs.
Et ce qui est intéressant là, dans ce texte hein, de Claude Jacoux, c'est qu'il en appelle à une repentance en vue de ce qu'il appelle une agriculture créationnelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce concept d'agriculture créationnelle ? Est-ce qu'il a utilisé créationnelle pour ne pas dire agriculture biologique ?
Absolument pas. L'historique de ce mot, moi j'étais là, c'est moi qui ai trouvé ce mot à la base.
De ce concept.
On était au Sénégal avec une partie du comité de solidarité paysan, chez Éric Toumieux, qui sur un appel de Dieu, qui a acheté un coin de désert.
Qui a construit
Et puis qui a monté une oasis dans un coin de désert. C'est un bout de paradis, c'est inouï, dans un coin de désert. Oui, autour, il y a du sable.
Voilà, a trouvé de l'eau à 110 mètres de profondeur.
Ouais, 96. On a été chez lui, on a découvert ça. C'était tous des paysans qui étaient là, sauf moi. On a pleuré quand on a vu ça. C'était inouï. Et quand on essayait de comprendre, parce qu'il y a des gens qui étaient là pour la permaculture, tout ça, on s'est rendu compte que ça allait bien au-delà de la permaculture. C'est-à-dire qu'il y avait une telle connexion avec le Créateur, dans la façon de faire, de recevoir des directives, c'est ce que je disais déjà avant, que moi j'ai sorti là dans la discussion, là c'était dans un champ, je dis mais ça doit être de l'agriculture créationnelle. Et c'est ça qu'on doit promouvoir, c'est pas savoir si c'est biologique, si c'est permacole, ça doit être créationnel, c'est-à-dire une agriculture qui est connectée avec le Créateur. Alors exactement ce que ça veut dire,
oui, parce c'est difficile un peu ce qui manque dans ce livre, finalement vous appelez à la repentance, mais on se dit, mais attendez, à la fin il pourrait y avoir quelques pistes pratiques pour nous permettre un peu de voir comment entamer une réponse, comment embrayer sur des pistes nouvelles pour acter notre changement de mentalité.
Je comprends. En même temps, c'était difficile de donner une recette alors qu'on ne l'a pas. C'est-à-dire que cette année, on était toute une équipe à monter au Suchet le jour du jeûne fédéral pour un temps de repentance. Et puis on s'est rendu compte qu'on n'était pas compétent. Dire comment je fais pour me repentir? Est-ce que j'ai un bouton, je presse, voilà, je me repens. C'est pas un truc qui est inné. Donc on s'est rendu compte qu'on devait se présenter devant Dieu pour lui dire, mais comment on fait ça? Moi, le premier, je confesse, je ne sais pas me repentir. Je peux faire deux, trois belles phrases un peu sophistiquées, mais...
Oui, je peux avoir un discours religieux, mais concrètement, après, qu'est-ce qu'on fait?
Donc finalement, ce livre, il donne une espèce de palette de sujets, de problématiques et de questionnements. Mais moi, je dirais, c'est difficile aujourd'hui de dire comment, parce qu'on doit le recevoir. Et ça, disons, en termes agricoles, ce livre, c'est un peu la préparation du terrain. On prépare le terrain. Et puis peut-être on sème quelques graines, mais comment elles vont pousser,
ça, on ne sait pas encore.
Ça, c'est le chapitre du Créateur.
Et si nous ne devions plus être ce matin à ma fenêtre, s'il ne restait que le noir comme dernier signe d'espoir, si mon cœur comme une pierre ne connaît plus que l'hiver, si perdu sur mon chemin je ne trouvais plus ta main, toujours serait ta lumière comme un phare, comme un repère, car j'ai trouvé
écoutez un air d'actu sur Radio Air. Nous quittons Aslan sur ma route. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Michel Rey, entrepreneur social et coordinateur de Solidarité Paysan Romandie. Alors, dans ce livre, hein, Urgence, un appel à la repentance, vous apportez aussi, Jean-Michel Rey, deux contributions. L'une par rapport à la disparition progressive du glacier du Rhône, l'autre par rapport à la grêle. Alors, qu'est-ce qui vous paraît important à dire par rapport aujourd'hui à la situation des glaciers ?
Alors, en pensant à cette question, j'ai repensé à un documentaire que j'ai vu il y a quelques années de Nicolas Hulot sur l'eau. Et Nicolas Hulot, dans un documentaire d'une heure à peu près, expliquait comment l'eau était organisée sur la planète. Entre les mers, les nuages, la glace, l'eau qui était sous les déserts et puis l'eau qui était gazeuse. Et quand j'ai entendu ce documentaire, j'ai dit, mais ça, c'est Nicolas Hulot, il est en train d'expliquer l'action de Dieu dans les versets 4 et 5 de la Genèse. Quand il sépare les eaux des eaux, et puis qu'il les range, si on veut. Et Nicolas Hulot, d'une façon brillante, il expliquait comment c'était rangé, et puis comment c'était en train de se déranger. Et maintenant, on assiste avec la
disparition des glaciers.
Et tout ça... À quelque chose qui était bien organisé, qui se désorganise. Et On est dans un stade, et alors avec le glacier du Rhône, ben moi je l'ai bien connu parce que je l'ai découvert tout petit. Après j'ai fait de la varappe là-bas, j'ai appris à, voilà, j'ai fait des cours de grimpe à la Fourca. Et puis j'ai vu ce glacier qui faisait à peu près 20 mètres au-dessus du toit de l'hôtel de la Fourca. J'ai vu ça de mon vivant. Et la dernière fois que je suis allé, j'ai dû marcher 20 minutes depuis l'hôtel de la Fourca pour atteindre le glacier.
Et ça, c'est une expérience spirituelle très, très forte.
Un choc majeur. J'étais effondré, comme tu perds le meilleur membre de ta famille. T'es catastrophé quand tu vois ça. Et je suis allé comme au chevet du glacier. J'y suis retourné cet été pour empêcher son évaporation. Ils ont mis un grand linge dessus. Mais au fur et à mesure qu'ils font ce linge, il est béant, là, on dirait un grand linceul. OK, c'est catastrophique. Et moi, j'avais à cœur d'aller, je suis allé au glacier de l'Arre et puis au glacier du Rhône. Je suis allé prier là, pour les glaciers.
Parce que la foi a quelque chose à voir de manière directe avec cette disparition de ces glaciers.
Mais disons que...
Dans votre spiritualité, ça fait un
moi,
tout.
Je vois la perfection de l'organisation créationnelle qui est en train de se diliter. Alors, c'est quoi la ressource? C'est de retourner vers le Créateur, puis de lui dire, écoute, je constate que c'est cassé, je me repens comme je peux, en tout cas je pleure, parce que je suis très triste de ce qu'on a fait, de ce qu'on vit, de ce qu'on voit. Et puis, je me présente devant toi pour te demander si tu serais d'accord de faire quelque chose. C'est un peu humble, comme ça, c'est assez simple, mais j'ai quoi comme autre ressource?
On pourrait imaginer, par exemple, lutter contre toutes les énergies fossiles, toutes les émissions de CO2, etc. Donc, finalement, c'est un peu ce qu'on attendrait dans votre livre et on ne l'a pas.
Moi, je suis allé au Sénégal, donc il y a quelques années, pour voir brûler des tas de déchets un peu de partout. J'ai dit, mais il faudrait qu'on se mette tous à quelque chose. Et pour moi, ce qui a le plus de sens face à un créateur, quand on a bousillé ce qu'il a fait, c'est de lui dire, on reconnaît qu'on a bousillé, et puis, est-ce que tu es d'accord de réparer?
Donc finalement, ce à quoi vous appelez, c'est vraiment une sorte de prise de conscience face à Dieu et finalement à une sorte de repositionnement de l'être humain dans une sorte de dépendance à l'endroit du Créateur.
Complètement. Complètement. Et par rapport à l'autre aspect, la dimension météorologique de ce qui me tient à cœur, ça c'est quelque chose que Dieu m'a appris presque à mon... Je raconte bien comment j'ai appris ces choses.
À votre corps défendant.
À la base, c'est juste parce que j'étais un trouillard que j'ai découvert ça. J'avais peur que la grêle, elle me casse mes Vélux.
Là, vous êtes devenu quelque part un peu l'aumônier ou l'accompagnant des agriculteurs qui risquent la grêle sur leur exploitation.
Je me suis rendu compte qu'il y a plus de danger que sur mon Vélux quand il y a une grêle. Et j'ai découvert dans la Bible, si on veut, que les phénomènes climatiques majeurs, en tout cas la grêle, les 9 textes qui parlent de la grêle, c'est chaque fois des jugements de Dieu. Pourquoi jugement de Dieu? Parce que des fois Dieu manifeste son désaccord avec un certain nombre de choses qui se passent, notamment les injustices dont on parlait tout à l'heure. Donc, on doit militer pour la justice. Et puis si maintenant on se positionne par rapport à la destruction de la grêle,
de la création,
par exemple, il faut comprendre... Si c'est une agression, disons, malfaisante qui vient pour nous faire du mal, ou si c'est une action de Dieu. Et si c'est une action de Dieu, ma responsabilité, c'est d'abord une réconciliation avec Dieu. Et quand je suis réconcilié avec Dieu, je peux lui demander d'intervenir pour ne pas être détruit. Mais il faut d'abord se réconcilier. C'est pour ça qu'il y a la dimension de la repente.
Et il y a cet appel que vous adressez avec d'autres en lien avec la repentance, urgence. Un appel à la repentance, ce livre qui vient de sortir. Jean-Michel Rey, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Le temps
passe
très vite. Je rappelle que vous êtes le coordinateur du mouvement Solidarité Paysan Romandie et que vous avez un site internet.
solidaritépaysan.ch.
Au pluriel, voilà, solidarité paysan au pluriel.
Si vous voulez le livre, ben vous pouvez le commander chez moi.
Voilà, et il y a la possibilité d'entrer en contact via le site vous-même. Si vous souhaitez réécouter cette émission ou d'autres diffusées sur Radio Air, ne manquez pas de nous retrouver sur le site radioair.ch. Merci à Erol pour son aide précieuse à la technique et à la réalisation de cette émission en direct. Excellente suite de journée à chacune et à chacun.
Merci.
Un air d'actu avec Serge Carrel.